au-delà du soleil, l'infinie beauté de Dieu. Et je trouvais ce passage très beau dans, pour parler du couple, dans le livret, et vraiment une très belle vraiment méditation, et ça commence ainsi. À la fin, nous nous trouverons face à face avec la beauté infinie de Dieu, et nous pourrons lire avec une heureuse admiration le mystère de l'univers qui participera avec nous à la plénitude sans fin. La vie éternelle sera un émerveillement partagé, où chaque créature transformée d'une manière lumineuse occupera sa place et aura quelque chose à apporter aux pauvres définitivement libérés. C'est vraiment une... Je trouve ça intéressant que c'est à la fin du livret, on fasse appel, on fasse allusion à la vie éternelle. À la vie éternelle parce qu'il s'agit de ça, l'infinie beauté de Dieu. Nous sommes appelés à contempler le Seigneur. Alors, vous le savez, le mariage est pour cette vie. Alors, c'est peut-être une bonne ou une mauvaise nouvelle, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Mais ce n'est pas pour la vie éternelle. Ce n'est pas, le mariage n'est pas pour la vie éternelle. Alors, c'est peut-être un soulagement pour certains, mais une tristesse pour d'autres. Mais ça ne veut pas dire que vous n'ayez pas, dans la vie éternelle, un lien particulier. Le lien de l'amour. Pourquoi ce n'est pas dans la vie éternelle, contrairement au baptême, contrairement à la confirmation? Mais l'Eucharistie n'est pas dans la vie éternelle, par exemple. Parce que quand on est signe de l'Alliance, et qu'on est dans le face-à-face, il n'y a pas besoin de signe, si on est déjà dans l'Alliance. C'est logique, je veux dire. Si vous êtes dans le face-à-face avec Dieu, vous n'avez pas plus besoin de signe du face-à-face. Si vous êtes dans la communion avec Dieu, complète, vous n'avez pas besoin de sacrement, de quelque chose qui vous manifeste, quelque chose, comment va être le face-à-face, vous y êtes. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on n'aura pas un lien, que vous n'aurez pas un lien particulier? Bien sûr que si. Nous aurons un lien particulier avec tous ceux que nous aurons aimés. Et je trouve ça assez beau de dire, voilà, pourquoi c'est intéressant de mettre le cap sur la vie éternelle, parce qu'on en parle assez peu dans la préparation au mariage que je fais. J'aborde régulièrement cette question-là. Pouvez-vous vivre l'un sans l'autre? Alors, il y a plusieurs manières de comprendre la question. On dit, ben, est-ce que je peux vivre dans le quotidien, toi tu es ici, moi je suis là, nous ne sommes pas dans les mêmes endroits, oui, on peut le comprendre comme ça. Mais est-ce que je peux vivre avec le décès de l'autre? Je me souviens, bon, ça reste exceptionnel et dramatique à la fois, d'un couple que j'ai accompagné. Elle, sa sœur, mariée en juin, est partie en Asie, dans une œuvre humanitaire. Est-ce que c'était les enfants du Mékong, peut-être? Mais bon, elle attrape la dengue. Vous voyez ce que c'est que la dengue? Ce moustique qui vous pique, c'est là, mais très fortement. Elle était au Cambodge de mémoire, et ensuite on la transfère en Thaïlande en avion sanitaire. Mais la pauvre jeune femme n'a pas survécu. Mariée en juin, décédée en octobre. Et lui, le garçon, a terminé la mission. Son mari. Je trouve ça intéressant de dire que, même si ça reste, et grâce à Dieu, exceptionnel, mais moi j'aime bien parler de la vie éternelle et du décès lors de la préparation au mariage. Parce qu'on n'y pense pas du tout. Personne n'y pense. On ne se pense pas mort, parce que c'est assez logique. On n'a aucune expérience de la mort. Maintenant que la mort existe, nous le savons, à travers nos proches, etc., et que ça n'arrive pas qu'aux autres, et que parfois aussi dans le veuvage aussi, quelque chose qui arrive. Je trouve que c'est intéressant parce que ça donne une densité à la relation. Ça donne une densité, c'est-à-dire le fait de penser que l'autre ne peut ne plus être là à mes côtés, lui, elle, qui est une grâce pour ma vie, il peut, elle peut, voilà, pas des soucis de santé, ou simplement l'âge, ou l'accident, ou que sais-je, et bien voilà, ne plus être mon compagnon, ma compagne de vie, ma grâce pour cette vie. Mais elle le sera, ou il le sera pour la vie éternelle. Moi, je trouve ça interpelle, je trouve que c'est intéressant de dire que... Alors, ça donne une gravité, évidemment, mais je trouve que ça donne une qualité de relation. C'est-à-dire, vous voyez, dans la biographie de Marie Curie, le dernier contact que Marie Curie a eu avec son époux Pierre Curie, c'est une engueulade à cause des enfants. Bon, classique, rien de très particulier. Il quitte le domicile conjugal, il va à son travail et là, se fait renverser par une calèche et décède. C'était le dernier mot. Elle dit, c'est le dernier mot que j'ai eu avec mon conjoint, mon époux. Truc d'engueulade. Hein, la mort vient comme un voleur. Et je trouve ça intéressant de... Elle disait, tiens, si j'avais su, ben j'aurais terminé sur un « je t'aime ». Et je trouve ça intéressant de remettre en perspective votre couple par rapport à la vie éternelle. La vie éternelle qui est très concrète, ce n'est pas juste quelque chose d'éthéré. Non, pour nous, la vie éternelle et le contact avec nos défunts, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie à tel point que vous le savez. Je ne vais pas vérifier là dans l'église de Belleux, mais bien souvent dans nos églises de campagne, il y a des cimetières qui entourent les églises, voire des tombes dans les églises. Parce que comme pour dire que nos défunts font partie de notre communauté. Ils font partie de notre communauté. Ils font partie de notre famille. Et le fait de prier pour les défunts et le fait de savoir que l'autre, nous sommes appelés à participer, comme dit le Saint-Père, à la plénitude sans fin, à un émerveillement partagé, où chacun occupera sa place et aura quelque chose à apporter aux pauvres définitivement libérés. Chaque fois que nous pensons ça, nous mettons dans cette vision-là. Ce n'est pas la tristesse qui nous envahit, non. C'est au contraire une espérance. Et de dire au fond que, comme couple, vous êtes des vecteurs d'espérance. Et le fait d'avoir la vie éternelle fait qu'au fond, ça ouvre le couple au-delà du face-à-face de psychologie plus ou moins blessée, plus ou moins équilibrée, etc., d'agacement, de quotidien, ça ouvre le couple à quelque chose de transcendant. Moi, je vous interroge, mes amis, où est le contact avec le transcendant dans votre vie? Où est le contact, où est l'irruption du divin? L'irruption du divin. Le divin, voilà, revient. Évidemment, dès qu'on parle de décès, dès qu'on parle de mort, évidemment, le divin, le transcendant, ben, s'invite. Mais faut-il attendre ça pour que le divin s'invite? Pour que le transcendant s'invite? Quel est votre point de contact avec la divinité, avec le avec l'au-delà, quel est votre point de contact? Alors c'est la prière, certainement. Vous avez plusieurs points de contact. Vous avez évidemment votre engagement, vous avez votre temps d'oraison, vous avez la pratique dominicale. Mais je trouve ça important de dire l'importance du point de contact avec le divin, parce que et avec la vie éternelle, parce que ça remet en perspective toute notre vie et ça remet en perspective les petits côtés de notre vie, les petits côtés de nos petits agacements, nos petits énervements, nos râleries, voilà, tout là où ça va pas bien, là-bas. Eh bien, tout ça, on le remet en contact, en perspective, par rapport à la vie éternelle. On dit, ben, c'est juste rien par rapport à la vie éternelle. Nous sommes appelés, comme disciples de Jésus, à être témoins de cette vie éternelle. Nous sommes appelés à être témoins de cette plénitude. Nous croyons qu'il y a une vie après la vie, que la vie ne... Vous savez, ça c'est vraiment important, c'est le fait de mettre un enfant au monde, on le met au enfant au monde pour la vie éternelle, pas pour la fausse. Et ça c'est complètement différent. Alors, peut-être certains d'entre vous ont perdu des enfants ou parfois les fausses couches, etc. On sait combien c'est douloureux, combien c'est... C'est voilà, mais c'est important de dire ça. Nous, comme couple, disciples de Jésus, les enfants, pour ceux qui en ont, qui ont mis les enfants au monde c'est pour la vie éternelle, pour contempler le face-à-face. Et dans les échanges que nous avons eus là tout à l'heure, etc., il y a certains qui me disent, ben, je vois des couples qui disent, on ne veut pas avoir d'enfants. C'est pas qu'on ne peut pas avoir d'enfants, on ne veut pas avoir d'enfants. J'interroge, je me dis, quelle est la place du désespoir là-dedans? Parce qu'avoir des enfants, c'est un avenir continué, c'est un au-delà de nous-mêmes. Vous voyez, c'est ça, avoir un enfant, c'est vraiment se projeter, c'est l'amour continué. Alors, si on ne peut pas avoir d'enfant ou on s'est marié sur le tard, bon, c'est une autre chose. Voilà, bon, ben, voilà, parfois la nature est cruelle, et puis parfois, voilà, elle est ce qu'elle est, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fécondité. Mais là, c'est autre chose. Il y a des personnes qui vous disent, nous, on ne veut pas avoir d'enfant. Alors qu'ils pourraient. Sauvons la planète, n'ayons pas d'enfant. Non. Nous ne disons pas ça. Nous ne disons pas ça, pas du tout. Nous disons que ce qui sauve la planète, c'est le lien qu'on a l'un avec l'autre. Ce qui met en danger la planète, c'est l'âpreté au gain. Toujours la même chose, hein, rien de nouveau sous le soleil. C'est la volonté de posséder, le toujours plus. Mais ce n'est pas un enfant, un nourrisson qui met en danger la planète. Oui, derrière ça, je trouve qu'il y a une manière de voir l'écologie qui n'est pas notre manière à nous. Il y a une manière de voir l'écologie dans une espérance. Nous, on est dans l'espérance. On peut voir l'écologie en disant la personne humaine est un problème. Ce qu'on appelle le malthusianisme, peut-être si vous avez entendu parler de ce mot-là. Malthus qui disait, au fond, il faut diminuer la population, etc. C'est sûr que s'il n'y a plus que 2 ou 3 milliards de personnes ou 200 millions sur la Terre, la création ira mieux. Non, elle n'ira pas mieux. Parce que pour que la création aille mieux, il y a besoin de la personne humaine. Nous sommes les gardiens. Nous aidons, quand nous sommes en contact avec le Seigneur, nous aidons la nature à aller mieux. livrée à elle-même, la nature aussi court à sa perte. Vous voyez, donc je trouve ça intéressant de remettre la perspective sur la vie éternelle dans votre couple, dans le contact avec les défunts, même dans vos enfants, je ne sais pas comment ça se passe par rapport aux. Bon, beaucoup d'entre vous ont perdu leurs parents, bon, peut-être pas tous, mais un certain nombre ont perdu leurs parents ou leurs grands-parents. Bon, voilà, donc. Voilà, et je trouve que c'est important que ces moments-là, les funérailles, c'est vraiment des moments très forts, parce que des moments où on se met en contact avec la limite de la vie, le côté limité de nos existences. Hein? Nous sommes des existences limitées. Le côté vulnérable de nos existences. Ça veut dire qu'on sort de la toute-puissance. La toute-puissance, c'est la volonté de dominer. Et ce paragraphe-là, je trouve qu'il est vraiment formidable, de dire la vie éternelle sera un émerveillement partagé. Eh bien, dès aujourd'hui, nous voulons vivre cet émerveillement l'un envers l'autre. Comme couple, vous voulez vivre cet émerveillement. Et vivre l'émerveillement, c'est déjà une anticipation de l'éternité. Et le texte continue, nous sommes faits pour le ciel, pour la vie éternelle, pour vivre toujours. Mais si ce passage en ce monde a un sens d'apprentissage, de transmission, de valeur, il est essentiel que l'homme ait le souci de devoir de laisser aux générations suivantes une demeure aussi bonne et meilleure que celle qu'il a héritée de ses parents. Chaque personne est responsable de l'avenir. Nous sommes appelés à nous lancer audacieusement dans la grande mission de renouveler la société avec la grâce et la force de Jésus ressuscité au long de notre chemin ici-bas. À certains moments, nous anticiperons la rencontre suprême du jour où nous verrons Dieu. Et notre bonheur sera dès maintenant total. C'est-à-dire que la vie éternelle, ce n'est pas un désengagement de notre existence. Ce n'est pas juste, bon, le matériel, on oublie. C'est un apprentissage, c'est une pédagogie, la vie éternelle. C'est-à-dire que c'est une transmission avec le souci de laisser quelque chose de mieux aux générations à venir. Un monde plus juste et fraternel. Pas un monde parfait, parce qu'il est marqué par le péché originel, et que tant que Dieu ne sera pas tout en tous, eh bien ce monde-là, il sera forcément limité. Mais quelque chose de mieux. Mettre des enfants au monde, c'est un acte d'espérance. Et c'est important pour ceux d'entre vous qui sont grands-parents, d'être attentif à soutenir justement les jeunes générations, les jeunes parents. Vous avez un rôle très important qui porte souvent les deux travail, ou souvent les voilà qui portent beaucoup de charges dans un monde qui est peut-être plus insécure qu'il n'a été pour vous au même âge quand vous-même vous étiez jeunes parents. Bien, vous avez un rôle très important, un rôle de prière, vous le faites, la prière pour vos enfants, vos petits-enfants, un rôle de soutien, un rôle de babysitting, oui, vous voyez, je pense que voilà, je trouve ça intéressant de dire que voilà, vous avez passé le relais. Nous sommes chacun un maillon. Et vous avez passé le témoin. Vous voyez, dans les courses de relais, vous voyez, où on passe le témoin, voilà, je sais pas si c'est dans les jeux, dans l'athlétisme, etc. Voilà, 4 fois 100 mètres relais, c'est-à-dire que hop, et on passe le relais et l'autre continue, etc. Donc, c'est ça aussi la vie éternelle, c'est qu'on passe le relais. Et vraiment, prenez conscience que le fait d'avoir en vue, dans ligne de mire, l'éternité, fait que vous n'avez pas peur de passer le relais, parce que vous avez pu être parent, et puis vous avez encouragé vos propres enfants à passer le relais en étant parents à leur tour. Pour ceux qui sont appelés à ça, pour ceux qui. Bon, avec toutes les bémols que ça demande, parce que bon, parfois c'est plus compliqué, des situations personnelles, mais en tout cas, vous avez donné une espérance, vous avez donné le goût. Vous avez donné le goût. Le goût de transmettre. Et quelqu'un aussi, si vous êtes là, vous a donné le goût de transmettre. Pour les chrétiens, croire en un Dieu qui est un et communion trinitaire incite à penser que toute la réalité contient en son sein une marque proprement trinitaire. Et aussi à découvrir une clé de notre propre épanouissement. En effet, plus la personne humaine grandit, plus elle mûrit, plus elle se sanctifie à mesure qu'elle entre en relation, plus elle sort d'elle-même pour vivre en communion avec Dieu, avec les autres et avec toute la créature. Je trouve ça intéressant de dire qu'au fond, le rapport à la Trinité, et alors ça peut paraître un peu complexe de dire la Trinité comme ça, c'est pas intuitif parce que bon, c'est déjà de l'ordre du mystère de notre foi, mais je trouve ça, nous croyons en un Dieu unique, nous ne croyons pas en un Dieu solitaire. Nous croyons en un Dieu unique, nous ne croyons pas en un Dieu solitaire. C'est la grande différence avec les autres religions monothéistes. Nous ne croyons pas en un Dieu qui est un Dieu compact. Nous croyons en un Dieu qui est communion, Père, Fils et Esprit, à l'image duquel nous sommes, et que votre couple rend visible. Oui, ça fait la différence quand même, ça fait vraiment une sacrée différence. De dire, voilà, nous sommes dans la Trinité, dans cette capacité de lien avec l'autre, d'entrer en relation quand elle. Nous sommes invités à une forme d'exode, à sortir de nous-mêmes, hein, pour vivre en communion avec Dieu, avec les autres, avec toutes les créatures. Voilà, c'est. Je trouve ça intéressant, cette allusion à la Trinité qui peut paraître un peu, voilà, je peux dire abscon, mais en tout cas un peu éthéré, pas très concret, parce que enfin, la Trinité, c'est sûr, c'est pas concret comme ça tout de suite maintenant. Maintenant qu'on voit la Trinité comme une communion de personnes différentes, c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas plus différent que les personnes divines entre elles, Père, Fils et Esprit. Il n'y a pas plus en communion que les personnes divines entre elles, Père, Fils et Esprit. Il n'y a pas plus différent et il n'y a pas plus qu'en communion. Les deux. Aucune personne sera plus différente d'une autre personne humaine que ne l'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint entre eux. Et aucune personne humaine ne sera plus en communion, même les amants les plus transis, que ne l'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est-à-dire que la différence n'est pas une menace pour la communion, elle est une condition. Dans la Sainte Trinité, nous trouvons toute la beauté de l'amour de Dieu envers le monde qu'il a créé. Nous sommes éblouis par la beauté de Dieu, beauté, bonté, vérité inépuisable, mais également beauté, bonté, vérité humble, proche, qui s'est faite chair pour entrer dans notre vie. Histoire, dans mon histoire, dans l'histoire de chacun d'entre nous, pour que chaque homme et femme puisse le rencontrer, la rencontrer, et avoir la vie éternelle. Et cela est la foi, accueillir Dieu amour, accueillir ce Dieu amour qui se donne dans le Christ, qui nous fait vivre dans l'Esprit Saint, se laisser rencontrer par lui, avoir confiance en lui. Telle est la vie chrétienne. Aimer, rencontrer Dieu, chercher Dieu. C'est lui qui nous cherche le premier. C'est lui qui nous rencontre le premier. Méditation de l'Angélus du 2 juin 2020. Je trouve ça intéressant de dire que le Saint-Père, quand il parle justement de la vie éternelle, il parle d'un Dieu qui est rentré dans notre histoire, pour que chaque homme et femme puisse le rencontrer. Et je me suis dit, tiens, posez-vous la question, quels sont les moments où Dieu est rentré dans votre histoire de couple? Quels sont les moments où vous avez peut-être découvert cette présence du transcendant? Il y a eu un signe, il y a eu quelque chose qui vous a été donné. Il y a eu une grâce qui vient d'ailleurs. Je trouve ça beau parce que justement ça permet de se dire que ce que vous vivez, premièrement, Dieu s'y intéresse. Deuxièmement, ce que vous vivez, eh bien, c'est un lieu de la rencontre. La rencontre avec le Seigneur, la rencontre avec la vie éternelle. Se laisser rencontrer par lui, avoir confiance en lui. Ce que vous vivez, le couple, c'est d'abord l'histoire d'une confiance. C'est l'histoire d'une confiance. Évidemment. Transmettre la vie, c'est transmettre la confiance. Et transmettre la vie éternelle, c'est qu'on transmette la confiance en Dieu. Et on transmet la vie éternelle par le baptême, par la prière. Nous ne sommes pas faits pour la fosse. C'est la grande différence. C'est la grande différence avec ceux qui n'ont pas la foi. Les personnes qui n'ont pas la foi sont des bonnes personnes. Si ce n'est que nous n'avons pas du tout la même vision des choses. Nous croyons que quand on a la foi, ben, on est appelé à plus. Ce monde ne nous suffit pas. Cette création qui vient de Dieu ne nous suffit plus. On veut plus. On veut un face-à-face. Ce regard amoureux de Dieu, nous le rencontrons dans l'éternité, mais comme le rappelle le Père Caffarel, avec sa grâce, nous pouvons le prévisualiser en ce monde. « Je cherche ton visage ». Chantait le vieux psalmiste, il savait bien que son Dieu est une personne et non pas un soleil anonyme qui donne indifféremment sa lumière à toute chose. Je cherche ton visage, un visage, ce qui d'une personne se tourne vers une autre personne dans un dialogue d'amour. Je préfère dire quant à moi, je cherche ton regard, car notre Dieu est regard, il est regard subsistant. Mais ce qui fait la noblesse de l'homme, c'est que déjà sur Terre, en des instants de grâce, il peut percevoir l'intensité lumineuse brûlante du regard divin et qu'un jour, il peut connaître le bonheur parfait à la vue de son regard quand la grande porte s'ouvrira. Un extrait du Père Caffarel. Voilà, c'est intéressant de dire, je recherche ton visage, je recherche ton regard et que il y a des instants fugaces dans notre vie, dans votre vie de couple, où vous découvrez comme ça, de façon fugace, l'irruption du divin, le côté de l'intensité lumineuse. Voilà, il y a quelque chose d'un peu hors sol, un peu. C'est rare, ça peut être rare dans des vies, mais vous prenez des actes d'émerveillement, vous prenez conscience qu'en fait, tout ce monde-là est préparé pour un au-delà. Il peut connaître la porte, il peut connaître le bonheur parfait à la vue de ce regard quand la grande porte s'ouvrira. Voilà. Nous pensons que, en fait, ce que nous vivons, c'est une anticipation. C'est une anticipation de ce que nous vivrons dans l'éternité. Bien qu'il appelle chacun en personne, il nous destine à marcher ensemble dans l'Église. Si nous marchons ensemble, jeunes et vieux, nous pourrons être bien enracinés dans le présent et de là fréquenter le passé, l'avenir, fréquenter le passé pour apprendre de l'histoire et pour guérir les blessures qui parfois nous conditionnent, fréquenter l'avenir pour nourrir l'enthousiasme, faire germer des rêves, susciter des prophéties, faire fleurir des espérances. De cette manière, nous pourrons unis apprendre des uns des autres, réchauffer les cœurs, éclairer nos esprits de la lumière de l'Évangile et donner de nouvelles forces à nos mains. Voilà. De même en couple, quand les deux s'engagent à croître ensemble dans et par le mariage, quand le couple exerce leur amour fraternel, petit à petit, leur cœur se dilate et pas à pas, leur amour conquiert le foyer, le carrefour, le pays. Voilà, je trouve c'est intéressant de dire que dans ce que vous vivez, vous, comme couple, il y a quelque chose de lumineux. Prenez conscience que peut-être modestement, certainement, mais prenez conscience que la vie éternelle, passe par vous aussi. Prenez conscience que cette lumière qui n'a pas de fin, vous en êtes les sacrements, vous en êtes les signes. C'est intéressant, ça veut dire vous êtes les signes d'une lumière qui n'a pas de fin. C'est le cas de tout chrétien, mais vous en êtes les signes comme alliance, comme qualité de lien. Oui, peut-être, voilà, le couple a ses hauts, ses bas, nous avons nos agacements, nous avons nos. Voilà, bon, voilà. Mais nous croyons que dans ce que nous vivons, il y a quelque chose de plus grand qui se joue. Dans la fragilité, la vulnérabilité de nos existences, de nos liens, de nos couples, il y a quelque chose de plus grand qui se joue. Et c'est vrai, on ne peut pas ne pas faire le lien entre la perte de la foi chrétienne et l'augmentation des séparations. Parce que justement, la perte de la foi chrétienne, c'est la perte de la vie éternelle, de la conscience de la vie éternelle. Et donc, la perte d'une espérance, la perte que quelque chose de plus grand se joue. Oui, il y a comme un effet domino. La perte de la foi chrétienne fait que le fait de ne plus avoir la vie éternelle en perspective, mais uniquement la fausse, ben mangeons, buvons, festoyons, mourons. À quoi bon autre chose? Ben, nous disons, oui, on mange, on boit, on festoie, c'est ce que nous avons fait à midi largement, mais raisonnablement. Mais voilà, mais en même temps, nous disons, ben, non, il y a autre chose. C'est un travail immense et souvent difficile, surtout au moment de crise, car dans la vie de famille, tous les moments ne sont pas paisibles. Nous avons tous eu et nous aurons tous des moments de crise familiale, conjugale, sociale, travail, beaucoup de crises. Même les pandémies vécues en 2020 ont été un moment de crise. Les moments de crise sont des moments de choix face aux décisions qu'on doit prendre. Mais ils sont par excellence le moment de la fidélité à Dieu, fidélité aux gens, fidélité aux engagements pris auparavant. La foi n'est pas une assurance vie. Évidemment, la foi n'est pas une assurance vie. Ce n'est pas l'assurance que ça va aller tout seul. Non. La foi, c'est de dire que dans la crise, nous aurons des ressources pour la traverser. Nous aurons des éléments de discernement. Nous serons accompagnés. Nous ne serons pas seuls. Non seulement accompagnés par le Seigneur, mais accompagnés en équipe, accompagnés par les accompagnateurs spirituels. Et de ce point de vue-là, vous êtes beaucoup plus armés pour franchir les crises que d'autres, qui ont aussi des crises, mais qui n'ont pas le recours de la foi. Pas parce qu'on a de la foi qu'on a moins de crises que les autres. Non, on a, comme les copains. Si ce n'est qu'on est plus formés que d'autres. On est plus soutenus que d'autres. On sait à quelle porte frapper. Chose que toute personne qui n'a pas de vie religieuse ne sait pas. Elle est livrée au face-à-face des psychologies blessées. Dans des moments de paix, des moments de crise, des moments de lumière, d'ombre, des moments de douleur, de joie, des moments de deuil, de vie, de persécution, de célébration, en tant que chrétien, nous devons apprendre à faire face à nos missions familiales en toutes circonstances, à partir de notre foi en Jésus ressuscité, avec créativité et espérance, en se disposant toujours au service, comme les serviteurs des noces de Nakana, surpris d'être collaborateurs du premier signe de Jésus, eux qui ont seulement suivi la consigne de sa mère, tout ce qu'il vous dira, faites-le, miséricorde, créativité, espérance font grandir la vie. Voilà. Nous sommes des. Vous êtes par votre engagement, vous êtes serviteur. Serviteur justement d'une espérance. Vous êtes les serviteurs émerveillés. Qu'un Dieu passe par vous pour se dire. Passe par vos humanités. Vous êtes les serviteurs reconnaissants, pleins de gratitude. La gratitude vient justement de la vie éternelle aussi. Parce que je crois que je suis appelé à plus grand, à une beauté qui me dépasse. Eh bien, ça ouvre la place à la reconnaissance, à l'émerveillement, à la gratitude, à l'action de grâce. Jésus ressuscité enracine notre foi, il est la contamination de l'espérance. Il ne s'agit pas ici d'une formule magique qui ferait disparaître les problèmes. Non, la résurrection du Christ n'est pas cela. Elle est la victoire de l'amour sur la racine du mal, une victoire qui ne saute pas par-dessus la souffrance et la mort, mais qui les traverse en ouvrant une route sur l'abîme en transformant le mal en bien, marque exclusive du pouvoir de Dieu. Donc suivre le chemin de Jésus-Christ est toujours un motif de joie, de bonheur et de grande récompense au ciel. Marie est notre grand modèle pour une Église jeune qui veut suivre le Christ avec courage et docilité, la force de son oui, la force de ce qu'il en soit ainsi, qu'elle dit à l'ange, impressionne toujours. Ce fut le oui de celle qui veut s'engager et risquer sans autre garantie que la certitude d'être la porteuse d'une promesse. Dans un sens, vous êtes aussi porteur d'une promesse. C'est pour ça l'équipe Notre-Dame, Marie porteuse d'une promesse. Marie qui a confiance dans la parole. Marie qui est pleine de gratitude. Mon âme exalte le Seigneur. Vous voyez, c'est l'équipe Notre-Dame, c'est pas rien dans END, le ND. C'est pas rien. Cette équipe, Notre-Dame. Vous êtes un mouvement marial. C'est dans votre nom, dans votre ADN. Alors chacun a un contact avec la Vierge Marie particulier, ça j'imagine. Mais vous êtes un mouvement marial. Et ça veut dire quoi un mouvement marial? Ça veut dire précisément un mouvement qui fait confiance. Et donc, vous êtes des pédagogues d'une société apaisée. C'est le titre de notre rencontre aujourd'hui. En acceptant de rentrer dans cette confiance. C'est tout ce que je vous souhaite aux uns et aux autres. Vraiment. Vraiment. De rentrer dans cette confiance. La confiance de Marie dans la parole de l'ange. La confiance de Marie tout au long de sa vie. La confiance de Marie dans la parole de Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Amen. Alors, il y a peut-être des petites questions ou on a 10 minutes. Oui, allez-y.
On avait connu la chambre de jeunesse où, au moins certains d'entre nous, je cherche le visage
d'un. Amen, je cherche.
Et on nous avait dit à ce moment-là,
le visage.
Surtout, regardez bien vos voisins.
Ah, amen. Je cherche le visage du Seigneur. Surtout, regardez bien votre voisine. Et oui, vous connaissez le chant, je cherche le visage. D'autres remarques ou questions ou...
C'est une remarque sur la confiance. La confiance, on a été habitué, surtout nous les plus anciens dans notre éducation chrétienne, à faire confiance en Dieu. Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est la confiance que Dieu nous fait.
Eh oui, La confiance que Dieu nous fait.
La confiance que Dieu nous fait, elle nous vient par le baptême, elle nous vient de ce que nous sommes fils.
Amen.
Elle nous vient de ce que le Père désigne son fils, Jésus, dans la confiance. Donc il met toute sa confiance, et cette confiance, elle retombe sur nous.
Amen.
Baptisés. La confiance de Dieu est sur nous, baptisés. Et pour appuyer un peu mon propos, je vous invite à méditer dans Saint Jean, chapitre 1er, verset 16. De sa plénitude, nous avons tous reçu, et ce, grâce en grâce.
Amen. Merci beaucoup. Merci.